Il est fondamental que chacun d'entre vous choisisse en précisant ce que vous désirez changer.
Troisième rencontre du cycle Art-Espace Public proposé par le Master Art dans l'Espace Public de l'Université Paris 1 La Sorbonne et Hors les Murs, aujourd'hui autour des interstices des villes.
Les interstices urbains, les friches dont nous allons parler ce soir, je pense qu'on va s'en rendre compte très rapidement, ce ne sont pas uniquement des lieux physiques, ce ne sont pas uniquement des espaces urbains, ce sont aussi des espaces symboliques et des espaces mentaux.
Bonsoir. Bon, ce soir, on ne parlera pas de grenier, ni de tente d'Indien, ni de grand lit des parents, mais on parlera quand même d'espace autre, peut-être d'une manière moins conceptuelle et plus concrète sur trois projets. On parlera des interstices. Peut-être, tout d'abord, interstices, ça évoque peut-être pas grand-chose pour tout le monde, dire que c'est une grande diversité de lieux, des terrains vagues, des usines désaffectées, des dents creuses, des bâtiments abandonnés. C'est des lieux plus ou moins accessibles, plus ou moins grands. Ça peut être quelques mètres carrés au bord d'un trottoir, comme des hectares et des hectares de zones industrielles désaffectées. Ça peut être des endroits où il n'y a aucun humain, comme des endroits qui sont habités par certaines populations, parfois beaucoup d'invisibles. C'est aussi des enjeux différents, que l'on soit à Paris, où il y a une très forte densité du bâti et où l'accès aux lieux et à l'espace est difficile. Il y aura peut-être des conflits pour l'occupation de ces lieux, alors que si on est à Berlin, dans une ville où il y a beaucoup d'espaces qui sont libres, il y aura peut-être moins de conflits et d'autres pratiques par rapport à ces lieux. Et au-delà de ces différences, ce qu'on voulait montrer ici, c'est ce qui les réunit, c'est que ce sont des espaces en devenir, des espaces en transition, et peut-être ce qui les rassemble vraiment, c'est leur côté vague, et c'est justement parce qu'ils sont vagues et que leur fonction n'est pas donnée, précisée, qu'on peut y inventer des choses et que ça peut devenir des espaces de potentiel. Voilà, et c'est justement ce potentiel qui peut intéresser des artistes, des citoyens, des architectes, des urbanistes, pour y monter des projets. Donc pour en parler avec nous ce soir, trois invités. Constantin Petcou, donc vous êtes architecte et chercheur sémioticien. Vous avez en 2001 cofondé AAA, AAA qui signifie l'atelier d'architecture autogérée. Et vous avez travaillé sur deux sites à Paris, un dans le quartier de la Chapelle et actuellement à Saint-Blaise. Et vous cherchez à activer des délaissés urbains pour y monter des projets avec les habitants et aussi mener une réflexion plus générale sur l'investissement et des pratiques d'autogestion dans ces lieux, invitant aussi d'autres artistes, d'autres chercheurs. Sinon, avec nous ce soir aussi Stéphane Chanclan, vous êtes artiste plasticien, vous développez depuis une dizaine d'années des projets sur les processus de transformation urbain et vous travaillez à Ivry-sur-Seine, sur la ZAC du Plateau, dans le cadre d'une démarche qui s'appelle HQAC, on y reviendra tout à l'heure, un projet qui s'appelle Trans 305. Et enfin, Philippe Vassé, vous êtes journaliste et écrivain, et vous avez écrit en 2007 un livre blanc paru chez Fayard.
Philippe Vassé.
Déplié. Les cartes révèlent des paysages idéaux, aux contours nets, vus comme dans les rêves de haut. Représentations souvent irréconciliables avec ce que les plans sont censés désigner. Égarés en rase campagne, on regarde dans toutes les directions, mais rien ne paraît s'accorder avec les formes claires et les couleurs franches de l'image étalée sur nos genoux. J'ai commencé à m'intéresser aux cartes quand j'ai compris qu'elles n'entretenaient que des rapports très lointains avec le réel. Séchés, découpés, compressés, coloriés, annotés, les lieux y sont comme des ailes de papillon dans un album, des trophées à manipuler avec précaution. Les routes font des lacets harmonieux, les cultures des motifs réguliers, et l'altitude ou la profondeur s'énoncent en longues lignes sinueuses et parallèles qui grisent les flancs des montagnes les plus escarpées. Plutôt que de surcharger le dessin et d'en rompre les proportions avec des symboles compliqués, les cartographes laissent parfois certaines zones vierges. C'est particulièrement frappant sur les cartes de ville. L'espace y apparaît irrégulièrement perforé de trous bien nets, comme une boîte de chocolat vidée de ses meilleures pièces. Qu'y a-t-il dans ces lieux théoriquement vides ? Quels phénomènes ont été jugés trop vagues ou trop complexes pour être représentés sur une carte ? Pourquoi ces occultations suspectes ? Autant de questions nécessitant un examen approfondi. Pendant un an, j'ai donc entrepris d'explorer la cinquantaine de zones blanches figurant sur la carte numéro 2314OT de l'Institut Géographique National qui couvre Paris et sa banlieue. Au cours de cette quête, j'espérais, comme les héros de mes livres d'enfants, mettre au jour le double fond qui manquait à mon monde. Projet initial, c'était un projet de classement d'inventaire, comme vous avez dit, et projet qui s'est avéré très vite impraticable et pas très intéressant parce qu'en fait, je pouvais pas faire de catégorie. En fait, j'étais que face à des événements singuliers. Donc, ce que j'ai trouvé des bidonvilles, alors de diverses tailles, avec diverses populations. J'ai trouvé beaucoup de lieux gardés, je dirais quasiment en l'état. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'espace inoccupé, surtout s'il est industriel, a une valeur en fait. Il a une valeur foncière, et puis des fois, il a une valeur parce que cet espace est pollué, qu'il faut le dépolluer pour le remettre en circulation, que le dépolluer coûterait très cher. Donc que le propriétaire préfère le laisser comme ça, le garder et spéculer dessus en fait, attendre que le quartier devienne, que le quartier change de population pour ensuite que ça vaille le coup de le dépolluer. Donc il y a beaucoup de sites qui sont protégés comme Fort Knox en fait, sur lesquels il est très difficile d'y rentrer même s'il n'y a rien objectivement. Donc j'ai trouvé bien sûr des terrains vagues avec qui étaient le théâtre de manifestations diverses en fait, plus sauvage, évidemment d'îles de drogue, graffiti aussi beaucoup, mais aussi par exemple des jeux de rôle grandeur nature. C'est-à-dire je partais de la représentation, une représentation trouée, et je prenais ça comme un appel, mais j'avais pas vraiment d'objet autre que la carte en fait. Donc en fait le projet a énormément évolué. Dès le début, en fait, je suis tombé sur des bidonvilles, en fait. Et comme le projet, c'est un projet finalement assez enfantin. Enfin, vous parlez de chasse au trésor, mais c'est pas comme. C'était vraiment une chasse au trésor. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de le faire aussi. Et évidemment, quand vous êtes face à un bidonville, toute idée de merveilleux, de chasse au trésor, etc., disparaît. Le projet a changé pas mal de fois, et après être tombé sur ces bidonvilles, je m'étais mis en tête d'essayer d'aménager en fait certains des espaces que je trouvais pour y habiter moi aussi.
Constantin Petkou.
Nous, au départ, on n'était pas tout à fait intéressés par les interstices. Donc, c'est venu après une démarche un peu plus longue, à travers laquelle on a essayé de réagir par rapport à l'espace métropolitain, notamment contemporain, qui, on n'est pas les seuls à le dire, d'ailleurs, Lefebvre, Guattari, d'autres le disent. Donc, on a essayé de réagir par rapport à l'espace métropolitain qui est de moins en moins investi, qui est de plus en plus désinvesti par les habitants. L'exemple que je donne toujours, c'est qu'on sort de chez nous et devant l'immeuble, on ne se salue plus avec les voisins. Et donc, nous, en tant qu'architectes, on ne pouvait a priori rien faire par rapport à ça. Et on a essayé en fait de se donner des outils là où il n'y en avait pas, de provoquer des processus de réinvestissement et si possible donc de provoquer aussi des microdynamiques de prise en charge par les habitants de ces espaces, par l'autogestion. Et donc pour nous, ces espaces sont aussi des failles dans ce système dominant. Donc quand on parle de disponibilité dans la ville, on pense notamment à la disponibilité foncière, parce que la ville, le territoire métropolitain, mais de plus en plus même à la campagne, il y a une logique foncière de profit qui s'installe partout dans le monde, et qui est un phénomène assez récent. Et donc les terrains vagues, pour quelque temps, ils sont encore disponibles de ce point de vue, donc ils n'appartiennent pas à un projet précis, donc il y a une disponibilité temporaire que nous on a essayé d'investir. C'était aussi une manière de transformer quelque chose qui était vécu, qui était vu comme quelque chose de négatif. Donc un terrain vague pour les commerçants autour, pour les voisins, ça fait baisser les prix évidemment, donc c'est quelque chose de négatif. Comme d'autres choses, comme le temps de chômage aussi. Le temps de chômage pour nous c'est aussi un interstice qui est vécu négativement. Et donc on a cartographié une série d'interstices de ce type, donc spatial, temporel, institutionnel, sémiotique, discursif, et on a essayé de les réinvestir, de les détourner dans le bon sens du mot pour les transformer dans quelque chose de potentiel positif. Et donc très concrètement, on a commencé notamment avec des terrains vagues et on a fait quelques projets, donc surtout deux projets à Paris, mais on en a fait d'autres ailleurs. Et puis ça donne des résultats assez intéressants. Tout n'est pas rose, donc évidemment c'est des situations très complexes qui posent des problèmes d'appropriation de l'espace, de prise de pouvoir, d'organisation hiérarchique ou pas, etc. Donc, mais dans son ensemble, on croit que l'effort mérite la peine. Quoi. Est-ce que j'ai...
On voit bien donc dans ce projet à EcoBox que vous avez mené pendant 4 ans, comment les habitants ont été impliqués et ont finalement se sont un peu réappropriés, même beaucoup réappropriés le projet eux-mêmes. On voit que c'est eux qui le déménagent ensuite. Et je voulais vous poser une question sur la dimension politique de votre action. Vous avez évoqué tout à l'heure que votre démarche première avait été pas tant de s'intéresser aux interstices, mais au fait que des espaces étaient désinvestis en ville, notamment par les habitants, et donc tenter avec eux une réappropriation. Comment réinventez-vous, quel type d'espace public activez-vous sur ces espaces avec les habitants ?
Je dirais que ce n'est pas vraiment un espace public, c'est ce qui s'est mis en place. C'est un espace qui est plutôt fluctuant. Donc il peut être parfois un usage public, certains jours de la semaine, parfois il peut être un usage collectif pour différents types d'ateliers, de workshops, de séminaires ou d'autres choses, et parfois même un usage privé. Donc nous aussi au départ on croyait qu'on aura un espace public et rien d'autre. On s'est rendu compte que l'espace il peut avoir aussi un usage privé pour nous ou pour les autres, etc. Et donc l'espace il a eu un usage très fluctuant. C'est encore plus intéressant parce que il y a eu pas mal de situations intermédiaires et c'est les gens même qui, avec eux, on a mis en place des règles de jeu, des règles de fonctionnement. Au départ, on s'est dit qu'on ne sait pas comment ça marche, il n'y a aucune règle et on va la découvrir ensemble. Ce qui est très important, c'est qu'on a mis en place des règles qui peuvent fonctionner entre différentes cultures, ce qui n'est pas évident. Mais il y a différents modes de vie qui sont transculturels, le commerce en étant un, mais pas seulement, la famille aussi. Et donc, et ça aussi, c'est important, le fait d'avoir pu ouvrir à une telle diversité d'usagers nous a permis après, par le passage d'une gestion à une co-gestion et après vers une autogestion, nous a permis de se retirer. Donc depuis une année et demie, nous on n'est plus dans l'équipe d'EcoBox, on fait d'autres projets.
Peut-être
puisqu'on va présenter le troisième projet, qui est celui de Stéphane Chanclan. C'est un projet qui s'inscrit sur une durée de 10 ans dans le cadre d'un projet de réaménagement urbain sur une ZAC qui s'appelle la ZAC du Plateau. Stéphane Chanclan a proposé à la mairie d'Ivry une démarche qui s'appelle HQAC, Haute Qualité Artistique et Culturelle. Et là, en fait, dans l'idée, c'était une carte qui permettait de voir la forme de la ZAC et de montrer que dans une ville, la forme que ça pouvait avoir et de montrer que c'était une taille immense. Et donc, première question, qui est, Constantin Petcou parlait d'espace de disponibilité pour décrire ce que nous, on a appelé globalement les interstices. Nous, on se demandait, Stéphane, comment vous décririez, enfin, quel vocabulaire vous utilisez pour parler des interstices, et puis au-delà, quel est le potentiel de ce type de lieu pour vous, et pourquoi en faire votre zone de travail ?
Ce dont je vais parler, cette démarche HQAC,
Stéphane Chanclan,
avait un objectif assez clair, qui est celui d'investir un territoire qu'on pourrait qualifier d'interstice, en tous les cas en France. C'est un interstice qui se situe entre l'art contemporain, les projets de développement urbain et le développement durable. Et c'est une réalité qu'en France, on se trouve là dans un espèce de non-territoire qui est peu institutionnalisé, dont on sait finalement assez peu comment des projets se développent là, et qui est avec un potentiel énorme. Il n'y a qu'à aller dans certains autres pays pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc le HQAC, c'est une façon d'essayer de faire exister des projets de ce type-là en France. Peut-être ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, avant de parler du HQAC, je pense que la question de qu'est-ce que c'est qu'une interstice, on l'a évoqué à plusieurs reprises ici, mais peut-être qu'il y a aussi à se poser la question, pourquoi est-ce que cette question de qu'est-ce que c'est qu'une interstice nous intéresse, ou plutôt pourquoi ça nous intéresse d'avoir des pratiques qui se place dans ces interstices. La première chose que je peux dire, c'est que moi, de mon point de vue, c'est pas tellement l'interstice tel qu'on peut la trouver dans le domaine urbain qui m'intéresse, mais c'est qu'à un moment, il y a une reconnaissance que l'interstice est l'expression de quelque chose de fondamental, qui est un espace bien particulier qui est essentiel dans une pratique artistique. Donc cet espace-là qui m'intéresse vraiment est un espace où se rencontrent, on peut dire, deux principes fondamentaux. Un premier principe qui est le principe du tout possible, un principe qui est celui du mouvement permanent, du processus perpétuel qui relève de l'informe, du chaos, mais où en tous les cas où on a quelque chose d'extrêmement vivant qui ne se formalise jamais et qui est une source de stimulation perpétuellement changeante. Et ça, c'est clairement un des aspects fondamentaux que je peux reconnaître dans l'interstice. Et l'autre aspect serait vraiment ce principe qu'on pourrait appeler principe de réalité. C'est un principe qui est celui qui formalise les choses, qui structure le monde, qui obéit à une certaine rationalité, qui est régulé, qui est fonctionnel, qui rentre dans la légalité, qui est normé, qui est efficace, qui est économiquement viable. Et c'est à la jonction ou à la rencontre de ces deux principes-là qu'il se passe quelque chose de très particulier que moi j'appellerais l'interstice. C'est vraiment ce lieu et ce temps où ces deux principes rentrent en interaction, en friction, en négociation et en lutte. Et c'est vraiment dans ce dialogue, l'interstice, c'est vraiment ce lieu où on a peut-être exactement envie de se placer en tant que plasticien, mais je pense pas seulement plasticien, en tant que personne qui a envie de réfléchir de façon créative à comment se placer dans le monde finalement. C'est vraiment ce constat-là, tout d'un coup, de se dire, mais en fait, la transposition de la rencontre et la friction de ces deux principes-là, si je le regarde dans le monde, j'en reconnais la transposition dans l'espace d'une ville, ça s'exprime sous la forme de ces interstices. Peut-être ce qui m'intéresse le plus, à la fois du côté de la pratique artistique et de ces interstices, c'est que c'est des lieux, c'est les lieux de transe. C'est des lieux qui sont en par lesquels on transite, qui sont souvent des lieux transitoires, donc ça ne durera pas très longtemps, c'est des lieux où la transformation est très très visible, soit de la dégradation, soit quelque chose qui est à venir, c'est des lieux de transmutation, c'est aussi des lieux de transgression. L'autre aspect qui caractérise l'interstice, autant du point de vue de ce lieu où on a envie de se situer, lorsqu'on a une pratique artistique, mais aussi dans la ville, c'est des lieux de crise, des lieux de lutte de pouvoir, des lieux à problème, ou des lieux qui posent problème, en tous les cas des lieux qui posent question. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de formule toute faite sur comment négocier une interstice. La question qui se pose, en tous les cas en France, et c'est une question stratégique, tactique, une question de, intuitive aussi, c'est comment se placer dans ces zones de friction créative, comment investir ces interstices de ville, ici pour le coup, avec l'intention de s'imprégner du potentiel énergétique, plastique, culturel et social de ce type d'espace. Alors, le projet Trans 305 a été l'occasion de s'intéresser à une interstice plus particulière, qui est la ZAC du Plateau, j'en parlerai un tout petit peu. Et c'est en regardant cette ZAC, en regardant aussi le territoire français dans ce qu'il l'autorise et ce qu'il interdit, dans ce que sont ces institutions culturelles notamment, et qu'est-ce qui nous permet de passer à l'action en s'appuyant dessus, ça a été de constater qu'en fait il y avait besoin de créer un nouvel outil. L'interstice est quelque part l'atelier idéal. C'est le lieu où se rencontrent donc ces deux principes, à la fois celui du trans et du forme. Et un atelier, c'est peut-être exactement ce qu'on cherche à créer en prenant un atelier, c'est de créer un espace un peu protégé dans lequel on fait rentrer une partie du monde, mais dans lequel on se laisse la liberté de transformer ce monde-là en dehors des règles qui le régissent habituellement. Et là, l'interstice présente un certain nombre de ces qualités-là. Donc du coup, la réflexion est comment est-ce qu'on peut se placer dans cette interstice, dans les interstices des villes, avec un projet de pratique. Donc le HQAC, ça veut dire haute qualité artistique et culturelle. C'est un cadre institutionnel, donc il est fait pour la France, dans le sens où c'est une réponse qu'on a trouvée pour donner une visibilité, une identité et une sorte de légitimité à ce qu'on fait, qui est nécessaire à partir du moment où on est hors institution, hors cadre, justement dans cet interstice. Donc sa première fonction, c'est celle de signaler que là, il se passe quelque chose, et se poser des questions, mais alors qu'est-ce que c'est qui s'y passe ? Le deuxième rôle de ce cadre, c'est un cadre légal, c'est qu'il donne l'autorisation d'être dans une interstice légalement et sur la durée. Et le troisième aspect, qui est un cadre économique, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a une certaine légitimité à considérer ce programme comme un programme qui mérite d'être financé et à regarder qu'est-ce qu'il peut donner. Et là, il y avait quelque chose qui pour moi était très intéressant, c'est que c'est la première fois où on peut reconnaître une façon de faire que des politiques et des financeurs s'engagent sur quelque chose qui est de l'ordre d'une recherche, sans dire on va planter une sculpture à tel endroit et une fresque à tel endroit. Donc la notion de démarche était effectivement très, très importante.
Merci. Et le café ?
Il est fondamental.
Vous écoutiez Dans les interstices des villes, une rencontre débat enregistrée le 8 février 2008 par les étudiants du master projet culturel dans l'espace public de l'université Paris 1 La Sorbonne. en collaboration avec Hors les Murs, Centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque. Rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour la quatrième rencontre, Les Nuits Blanches en débat. Plus d'infos sur le site www.art-espace-public.c.la.